Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 29e, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Stéphane Jolivet.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur de l'usine Orano Malvézy-Narbonne, alors Orano anciennement Areva, on reviendra là-dessus, on expliquera un petit peu tout ça. Vous faites prochainement une opération portes ouvertes et puis ça a entraîné une petite polémique sur la place narbonnaise. Donc nous avions d'ailleurs à ce même micro il y a une semaine certains de vos opposants. Donc je vous remercie particulièrement Stéphane Jolivet d'être venu apporter, j'imagine, un message qui sera différent, celui du directeur de cette usine. Michel, notre sommaire nous amène à parler de l'UNEF.
L'UNEF Paris, Paris-Sorbonne, oui.
Oui, l'Union des étudiants de France.
C'est ça, oui.
Ça veut toujours dire ça. Hein.
Qui fut longtemps le premier syndicaliste.
Ouais, ça n'a pas changé de nom comme Orano Areva.
On est toujours
dans l'UNEF.
Non. Avant, il y avait plusieurs UNEF. UNEF Eddy, UNEF Renouveau. Ils ont fusionné.
Ah, ils ont fusionné, bref, oui. Alors c'est quoi? C'est la holding maintenant, l'UNEF?
C'est l'UNEF unifiée, mais dans un piteux état, ce que je vais expliquer dans cette chronique.
Ensuite, sur notre sommaire, le spot de sieste de Cucugnan. Il va falloir aussi expliquer parce que c'est assez sibyllin.
C'est de mon point de vue, une véritable révolution intellectuelle dans notre région et certainement la plus belle innovation en communication touristique de cette région Occitanie depuis fort longtemps.
Bon. Deuxième partie, Céléran. Alors là, Céléran, c'est un domaine viticole, un château qui fut célèbre jadis, qui se trouve sur la commune de Salles, Salles-d'Aude.
Oui.
Qui est en piteux état à l'heure
actuelle. Oui, c'est un véritable scandale régional.
Tu nous expliqueras tout ça, Michel, pour l'avoir vécu d'ailleurs à divers titres.
Oui.
Et on terminera par... Alors, on revient dans le sujet de Orano Malvézy, la leçon de Madame Arditi à propos justement de ces journées portes ouvertes. Et ça sera une bonne transition pour ensuite
écouter
Monsieur Stéphane Jolivet et qui remettra, j'imagine, les pendules un petit peu à l'heure à ce niveau-là. Alors, l'UNEF, que se passe-t-il donc à l'UNEF?
Oui, Jean-Claude, alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, en fait, ou si tu l'as vu plutôt, mais, si tu l'as appris, mais une nommée Mariam Poujetoux, hein, j'insiste sur le X comme on le fait souvent dans notre région, Poujetoux, hein, ça sonne bien, a donc été élue représentante des étudiants à l'université Paris 4 de la Sorbonne, que ça, hein, pour y représenter l'UNEF. Et depuis, elle occupe, alors, dans les médias et les réseaux sociaux, une place, alors, plus que considérable, en fait, vraiment incroyablement importante.
Ah, alors, et comment cela?
Alors non pas...
Parce que c'est banal, finalement, les gens de l'UNEF qui se font briller, c'est pas nouveau.
Oui, non, alors, pas importante au vu des résultats obtenus par ce syndicat lors de ces élections, mais parce que, bon, ils ont fait un résultat que je vais préciser tout à fait lamentable, mais en raison de, comment dirais-je, de l'apparence de cette dame qui s'est présentée devant la caméra, enfin, ou les caméras qui se sont pointées, faites très vite, effectivement, pour l'interviewer, vêtue de ce qu'on appelle une hijab, c'est-à-dire un voile islamique qui couvre l'intégralité, en fait, de, non pas l'intégralité du visage, mais une grande partie, en fait, de la partie haute de la dame en question, ne laissant apparaître que l'ovale de son visage. C'est le terme hijab, le terme consacré pour ce type de voile.
Donc l'UNEF ne se voile pas la face totalement.
Totalement. Et alors, ce voile, d'une certaine manière, en fait, cette insistance médiatique pour montrer à combien de reprises cette dame, masquant en réalité la véritable information, me semble-t-il, qui méritait d'être relevée, à savoir que ce syndicat avait fait le score historique de 0,006% des inscrits à la Sorbonne, c'est-à-dire 385 voix sur 48 000 inscrits, ce qui est une bombe.
Ouais. Où sont les splendeurs d'antan, alors?
Alors, première remarque, donc, nos médias ne s'intéressent pas du tout, n'ont fait aucune remarque sur le score, effectivement, de l'UNEF et sa situation pitoyable. Ils ont insisté lourdement médiatiquement, car c'est plus vendeur, évidemment, sur la physionomie et l'apparence vestimentaire, si je puis dire, de cette dame. Hein. Donc, alors évidemment, si je chronique sur ce sujet, c'est pas pour c'est sur la partie voile en question, puisque je ne cesse de dire que la véritable information, ce n'est pas le voile, mais l'effondrement de l'UNEF, pour ne pas dire plus que ça. l'affaissement carrément idéologique et politique. Et alors même, je le rappelle, que bon, l'UNEF était, il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, le principal syndicat étudiant de ce pays, et mais aussi une filiale, hein, une filière de formation pour les cadres du Parti Socialiste, dont certains noms sont bien connus, venant justement de cette filière.
Oui, hein, oui, oui,
notamment ça. Le dernier secrétaire général, le premier secrétaire, M. Gambadélis, M. Julien Drey, M. Jean-Pierre Le Guen, député, je pourrais en citer comme ça des dizaines et des dizaines d'autres.
Donc hein. C'était une excellente filière professionnelle à défaut d'autre chose.
C'est ça, c'est vrai. Donc, alors voilà, donc double situation compliquée pour l'UNEF et pour le Parti Socialiste en l'espèce. Hein, mais qui montre quand même aussi que cette situation est une situation qui montre bien, hein, par cet affaissement à la fois électoral mais aussi idéologique et politique, hein, car bon, ce voile en question n'est pas simplement qu'un attribut vestimentaire, c'est aussi le symbole, en fait, hein,
d'une religion,
mais aussi de certains courants de cette religion qu'on appelle l'islamisme politique et qui consiste effectivement à investir par le bas toutes les institutions, notamment quand elles sont dans un état aussi lamentable et qui constitue une proie en fait très facile comme l'UNEF aujourd'hui, pour faire valoir effectivement leur point de vue en fait, et leur message et leur vision du monde et de la femme dans la société.
Donc il ferait de l'entrisme comme jadis les socialistes faisaient de l'entrisme pour leur future carrière.
Alors ça, c'est la thèse qui est avancée par les laïcs de gauche et de droite, comme les plus extrêmes d'entre eux, et quelquefois d'ailleurs avec la haine à fleur de mots. Donc pour moi, ce n'est pas un débat sur la laïcité en fait, et l'interdiction du voile à l'université. La question, elle est réglée aujourd'hui. Juridiquement, rien n'empêche, je parle des lois laïques, rien n'empêche effectivement à l'université de porter le voile, de se faire élire par un syndicat, comme représentant du syndicat, qui sont absolument rien. Donc pour moi, c'est plus un débat idéologique et politique, et culturelle, qui se pose là, et que l'UNEF, effectivement, aujourd'hui, hein, reprend tel quel, considérant, à travers cette présentation de cette dame, que, ben, par exemple, hein, les lois universelles, en fait, de l'homme et des femmes, quoi, des femmes surtout, en l'espèce, quoi,
n'ont plus cours,
et qui doivent être systématiquement interprétées et relativisées au regard de critères culturels, enfin, voire religieux. Donc, et ça, c'est une rupture, de mon point de vue, idéologique et politique fondamentale, en fait, qui traverse non seulement la jeunesse, en fait, et notamment le mouvement étudiant en général, mais qui traverse l'ensemble, en fait, du camp, en fait, dit progressiste, en fait, de la gauche en général, et qui marque à la fois une rupture politique et logique, mais aussi une rupture générationnelle qui pose effectivement de sérieuses questions et dont d'ailleurs on voit apparaître certains signaux dans la partie qu'on a appelée longtemps la gauche de la gauche, qui est représentée par la France insoumise et par M. Hamon, notamment, ne parlons même pas effectivement du monde d'extrême gauche. Donc voilà pour
l'UNEF et pour cette analyse.
Voilà, et donc l'UNEF qui tire la conclusion qu'il suffit d'être anti-impérialiste, anti-américain et anti-israélien, et anti-raciste, donc luttant contre l'islam, malophobie, pour être aujourd'hui considéré comme un progressiste qui mérite effectivement d'être élu et représenter l'UNEF, un syndicat dit de gauche.
Alors, deuxième sujet, le spot de Cucugnan, le spot de sieste. Un spot, c'est-à-dire un endroit, hein, parlons français un peu quand même.
Oui, alors là, Jean-Claude, quand j'ai appris cette information, j'ai fait un bond, mais de joie, en fait. J'étais vraiment ravi d'apprendre cette initiative, car depuis quelque temps, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais nos invités ont certainement dû, comme toi, forcément, tomber sur des séquences dans les journaux télévisés qui ne cessent d'en diffuser aujourd'hui et qui nous montrent, bon, des salles de sport, en fait, des salles de sport, hein, remplies, en fait, de jeunes garçons, de jeunes femmes, mais aussi de jeunes vieux, en fait, ou de gens un peu plus âgés, qui suent sang et eau, en fait, sur des tapis roulants qui roulent à une vitesse hallucinante, qui soulèvent des poids, en fait, de la fonte, en fait, pratiquement pendant 2 heures, en fait, hein, au risque de se faire très mal.
Américaine oblige.
Bien sûr, enfin, il faut être jeune, faut être beau, faut être bien portant, productif, dynamique, faut être dans le vent, bref, j'en passe.
Etc.
Séquence entre parenthèses de télévisée sur ces pratiques, suivie immédiatement de séquences publicitaires vantant des crèmes anticellulites, faites des massages, des nouvelles sociétés qui se créent, qui proposent des massages, des isolements dans une boîte en plastique,
bon, bref, etc. Là, l'antithèse
et
arrive.
Par effet miroir.
L'antithèse arrive.
J'apprends cette... complètement, effectivement, à contre-courant de cette tendance générale qui fait que notre temps court de plus en plus vite, si je puis dire là aussi, et qui propose de créer un spot de sieste, en fait, au pied du château de Quiribus, à Cucugnan, célèbre quand même, pour son boulot.
Joli nom, dont il faut rappeler qu'Alphonse Daudet l'avait emprunté pour le situer en Provence. Mais le Cucugnan, il est au doigt depuis toujours.
Initiative prise par des jeunes, alors je ne sais pas si ils sont tous jeunes, en fait, animateurs de la musique de Cucugnan, parce qu'il n'y a pas grand monde à Cucugnan quand même, Donc, l'animateur de la musique qui a pris cette initiative.
Et une Bilat chez Pichou n'était que qu'une.
Et qui permettra, en fait, à ces amateurs de château, en fait, mais aussi de sieste, de trouver des hamacs au pied du château, de se rendre entre des arbres prééquipés pour recevoir les hamacs en question. On leur proposera même des jumelles pour admirer le château, les insectes, en fait, et je sais quels oiseaux qui apparemment volettent dans ces arbres, et prendre le temps à la fois de dormir, en fait, ou pas d'ailleurs, de rêver, en fait, c'est-à-dire prendre du temps long, perdre en quelque sorte par rapport aux normes d'aujourd'hui pour gagner en profondeur. En réflexion, en nuance, ce qui, me paraît, une très révolutionnaire et qui devrait marquer, en fait, l'Occitanie et notre région en particulier, du saut de la plus grande innovation touristique.
La sieste occitane va devenir célèbre,
je l'espère.
Et je proposerai même accessoirement que cela fût une sieste Qatar, au pied même du château de Quiribus.
Sans le bûcher, en fait.
Vous y réfléchissez et on marque une première pause.